Alors nous allons maintenant entendre Alexandre Daugerotte qui intervient avec un titre qui est « Comment faire entrer cela dans le cadre ? Répondre cinématographiquement au et du génocide contre les Tutsis du Rwanda 1994-2014 ».
Merci. La 10e et la 20e commémoration du génocide ont chacune vu la sortie d'une floraison de films et de documentaires. À chaque fois, ces œuvres ont participé aux rituels et aux luttes où se joue la mise en œuvre d'une médiation légitime de l'événement, que ce soit au Rwanda, en France ou dans d'autres pays, pour que l'histoire du génocide contre les Tutsis du Rwanda de 1994 s'avère aussi la leur. Dans la première partie de ma communication, je vais brièvement exposer l'évolution de la production cinématographique durant la dernière décennie, afin de mettre en évidence l'émergence de quelques nouveaux regards, et surtout droits de regard, que ceux-ci soient rwandais ou étrangers. Alors je crois que ce sera intéressant de voir aussi, parce que disons on a travaillé dans des couloirs un peu parallèles, entre la couverture journalistique, la couverture photographique et celle qui relève du documentaire et du film, et de voir voilà, s'il y a quand même des dialogues contemporains entre ces différents modes de production. Dans la seconde partie, j'essaierai de montrer à travers l'analyse de l'autodocumentaire de Gilbert Dahayo, Rwanda, par-delà la fosse mortelle, qui est sorti en 2010, comment certaines récentes démarches filmiques cherchent à infléchir la représentation du génocide contre les Tutsis du Rwanda en œuvrant à l'émergence de visibilités inédites pour ceux et celles dont les expériences et les voix sont trop souvent maintenues hors champ ou uniquement conviées dans le cadre mémoriel précodifié et contraignant des commémorations. La question que Jean-Christophe Klotz pose dans son documentaire « Kigali des images contre un massacre », c'est-à-dire « Comment faire entrer cela dans le cadre », me servira donc de fil conducteur pour essayer de mettre en évidence les différentes tentatives, toujours partielles et partiales, parce que situées dans le temps, qui ont œuvré à offrir un cadre à ce génocide pour essayer d'une part d'en répondre, nous serions ici du côté du devoir de mémoire, et d'y répondre en leurs termes, nous serions cette fois du côté du travail de mémoire. La question de Klotz introduit aussi, au cœur de toute représentation du génocide, la nécessité d'une interrogation portant sur les limites du cadre visuel et référentiel que films et documentaires créent pour, d'une part, se soustraire à la rhétorique de l'ineffable, qui interdit de penser la dimension politique et historique du génocide en le maintenant dans un hors-champ éthique, et d'autre part, pour se soustraire à l'encadrement idéologique et aux narrations dominantes qui codifient et prédéterminent la mémorialisation du génocide perpétré contre les Tutsis. Comme l'indique Bill Nichols dans son essai fondateur « Représenter la réalité, enjeux et concepts du documentaire », faire entrer cela dans le cadre d'un documentaire génère toute une série de questions et d'enjeux auxquels nous pourrons revenir par la suite dans notre discussion. Je cite « Il y a des choix dans le commentaire et les interviews, dans le mode d'observation et le montage, dans la contextualisation et la juxtaposition des scènes, qui soulèvent des questions historiographiques, éthiques et esthétiques, qui sont propres au genre documentaire. Comment les témoignages des acteurs, par exemple, et ceux des experts doivent-ils être utilisés ? Quels critères devraient déterminer l'objectivité, la sélection et l'arrangement des faits, des témoignages et des procédés interprétatifs ? Quelles sont enfin les responsabilités des réalisateurs à l'endroit de leur public et de leurs sujets participants ? Comment doivent-ils rendre compte de leur propre présence et influence, pas seulement derrière la caméra, mais aussi en face des gens avec lesquels ils établissent une relation de confiance susceptible d'être trahie par la suite au montage ? Fin de citation. Les premières représentations cinématographiques et documentaires, par leur visibilité sélective, leur catégorie de perception, leur gestion de la temporalité, leur hiérarchisation des voix, tout comme la cohérence narrative de leur scénario, rendent certes présent un passé, pour lequel il n'y a souvent presque pas d'image, mais reste encore à savoir à quelle modalité et à quel prix ceci peut se faire. Ainsi, dans la mesure où chaque film articule une grille de lecture qui lui est propre, ces médiations constituent et instituent bien différentes mémoires. Néanmoins, il importe de ne pas se limiter à une approche célébrant le devoir de mémoire sans questionner ce qui motive idéologiquement cette injonction et en définit les conditions de possibilité, qu'elles soient idéologiques ou économiques. Il importe donc de souligner dans chaque cas en quoi tel documentaire ou tel film de fiction est ou non un vecteur de mémoire pertinent à telle ou telle époque. Parmi quelques critères possibles pour penser cette pertinence, qui peut être parfois perçue comme une pertinence impertinente, de par les représentations et les silences auxquels elle s'oppose, on peut tour à tour considérer les injonctions suivantes. Donner à voir et à penser la dimension politique du génocide, en souligner la genèse et les responsabilités, documenter la mise en œuvre de différentes formes de justice, pénale ou transitionnelle, essayer de faire imaginer l'expérience vécue du génocide tout en sachant qu'on ne saurait la comprendre, créer de nouvelles médiations afin de conférer une visibilité culturelle au génocide, explorer la transmission intergénérationnelle des violences subies ou perpétrées, donner à voir les défis de la réconciliation nationale et à en imaginer les conditions de possibilité. Plus de 20 ans après le génocide contre les Tutsis du Rwanda, une quinzaine de longs métrages ont été consacrés à cet événement. À part Imbabazi de Joël Karekezi, sorti en 2011, et Matière grise de Kivu Ruhora Rosa, sorti en 2012, la grande majorité de ces films n'est pas le fait de réalisateurs rwandais, même si la plupart d'entre eux ont été créés avec l'aide de co-scénaristes, d'acteurs, de techniciens et de consultants historiques rwandais. La vaste majorité de ces films a donc été réalisée par des metteurs en scène occidentaux qui en étaient à leur premier film sur l'Afrique, à l'exception de Raoul Peck, qui avait consacré deux films à Patrice Lumumba en 1991 et 2000, ainsi que dans une certaine mesure à Nick Hughes, qui avait travaillé comme caméraman en Afrique pour plusieurs années. À part Hôtel Rwanda, qui est sorti en 2004, tous ont été tournés au Rwanda et dans la mesure du possible sur les lieux mêmes où se sont déroulés les faits dont ils témoignent et auxquels ils désirent conférer une visibilité inédite. L'église de Kibuye pour 100 Days, l'école technique officielle de Kuchikiro pour Shooting Dogs, Kigali, l'église de la Sainte Famille et l'hôtel des Mille Collines pour Sometimes in April et un dimanche à Kigali, Bisesero et la région du lac Kivu pour Opération Turquoise. Même si certains de ces films ont été montrés au Rwanda lors de séances de projection publique en présence des autorités, ces longs-métrages visent avant tout un public occidental. C'est dans ce contexte de production, de diffusion et de réception largement déterminée par des regards, des références tout comme des enjeux et des capitaux occidentaux qu'il importe donc de se demander à quelle leçon d'histoire nous sommes ici en définitive conviés. Destinés à des spectateurs qui ne connaissent a priori rien du Rwanda, si ce n'est que ce pays a été le théâtre d'un génocide, ces films proposent des leçons d'histoire qui déterminent non seulement ce qui est jugé digne de mémoire, mais des grilles de lecture explicatives qui confèrent au génocide contre les Tutsis une possible lisibilité. À la mise en scène des lieux de mémoire, à la convocation de personnages historiques au cœur de la fiction, ainsi qu'à l'insertion d'archives visuelles ou radiophoniques, s'ajoutent le plus souvent, en guise de préambule, des leçons d'histoire distillées par un narrateur en voix off, des dialogues à visée encyclopédique ou encore des bilans chiffrés qui font office d'épilogue. Si ce dispositif pédagogique vise à ancrer l'action dans un contexte socio-historique précis, plus ou moins précis dès qu'on analyse ces résumés, celui-ci participe aussi d'un dispositif rhétorique qui vise à induire un effet de réel, qui tend à faire oublier aux spectateurs qu'ils regardent une représentation de ce génocide. Par ce stratagème, ces films éclipsent ainsi le plus souvent tout travail de mémoire explicite au profit d'un devoir de mémoire dont les modalités et les rationalités iraient de soi. En contribuant largement à instituer certaines représentations de ce génocide avec ses oublis et ses blancs au double sens du terme, ces premiers films ont légitimé des catégories de perception, de compréhension et d'explication pour le moins problématiques dans plus d'un cas. En ce sens, il importe d'examiner si ces films, dans leurs prétentions respectives à donner à voir la réalité du génocide, invitent ou non leur audience à réfléchir sur les limites de leur médiation, tout comme le contexte dans lequel ces films ont été produits, voire les représentations du génocide avec lesquelles ils sont en dialogue polémique. Dans cette perspective, certains films et documentaires se distinguent par leur questionnement relativement explicite de leur propre habileté à donner à voir et à faire entrer cela dans le cadre d'une représentation qui allie en somme au devoir de mémoire l'impératif d'un travail de mémoire. Alors je pense qu'ici, Peut-être un des documentaires sur lesquels on peut revenir, c'est celui Iseta, Behind the Roadblock, où Nick Hughes est retourné donc, sur les lieux où il a filmé la fameuse séquence depuis l'école en téléobjectif. Et essaye voilà, de déconstruire d'un certain côté l'icône que cette séquence est devenue. Mais ensuite, il y a tout un autre pan où il retombe, au fond, dans ce que Nathan a mis en évidence, c'est-à-dire celui du héros journaliste, et dans la mesure où lui-même est plus préoccupé de gérer son propre trauma personnel, dans une certaine mesure, que d'essayer vraiment de savoir ou de suivre qu'est-ce qui devient avec les personnes dont il a filmé le destin, même s'il va s'engager personnellement ensuite pour payer l'éducation de certaines personnes qui étaient impliquées dans ce qu'il a filmé. Alors, maintenant, je vais rapidement survoler, et là, c'est vraiment le but, c'est de vous donner presque des stimuli visuels, un certain nombre de films et de documentaires que j'ai essayé de regrouper. Ceci est partiel, c'est sélectif. Mais par exemple, une chose qui est intéressante ici, alors si on prend des documentaires, disons, qui se focalisent, qui essayent vraiment d'archiver et de récolter la parole des personnes qui étaient impliquées dans le génocide. Alors par exemple, on voit, il y a Keepers of Memory de Eric Cabera, qui est sorti en 2004, et donc qui là se concentre entièrement sur des rescapés du génocide. Ensuite vient le documentaire de Marie-Violaine Brincard, Au nom du Père de tous du ciel, 2009, où cette fois-ci ce sont des Hutus qui ont décidé de sauver, parfois au péril de leur vie, un certain nombre de Tutsis. Et donc très récemment, À mots couverts, de Violaine Baraduc et Alexandre Westphal, où cette fois-ci il s'agit, où la parole est donnée à des femmes qui ont participé au génocide, et en partie de voir voilà, comment elles aussi expliquent leurs actions et puis les problèmes également de gestion intergénérationnelle que cela peut représenter entre elles et leurs enfants. Un autre groupe de documentaires sont tous ceux qui se sont attachés à suivre la mise en place des gachachas, que ce soit durant la phase pilote avec les premières versions de la trilogie de Anna Guion, jusqu'à Paris-Bruxelles de Marie-France Collard, voilà, qui est ici avec nous, merci d'être présente, où on permet ainsi également d'explorer ces enjeux-là. Ensuite, il existe toute une série d'autres documentaires qui se focalisent alors, sur le processus de réconciliation nationale. Donc là aussi, je dirais, toute la période de l'après-génocide est également documentée. Je relèverai ici, parmi ceux qui se... Donc la plupart ici des documentaires sont faits par des auteurs étrangers, mais je vais juste m'attarder sur le documentaire « Hutu Tutsi, toi ou Rwanda », qui a été créé par l'IRDP, qui est un institut de recherche et de dialogue pour la paix, auquel participe Nason Munyadamutsa, qui est aussi ici présent. Et ici, ce qui est remarquable, c'est que donc, cet institut a été collecté, que ce soit au Rwanda, Kigali, dans les collines, dans la diaspora rwandaise, un certain nombre d'avis sur ces questions-là. Et ensuite, on a fait une étude sociologique quantitative. Ensuite, on a créé un documentaire, et le but de ce documentaire ici n'est pas de résoudre la question, mais plutôt de servir de débat, d'amorce à des dialogues au sein des communautés. Et donc après, les groupes de l'IRDP retournent dans les communautés où ils ont collecté ces témoignages en faisant un montage. Et ensuite, le but est de provoquer, de générer un débat au sein de la société rwandaise. Et donc ici, vraiment, le documentaire, je dirais ce type-là de documentaire ou de démarche, c'est-à-dire des films ou des documentaires qui sont utilisés pour susciter des débats au sein de la population, disons, qui ont la plus grande circulation au Rwanda. Il y en a d'autres qui ont été également utilisées dans un même cadre, celui de Anna Guion, As We Forgive, également, qui est, disons, beaucoup plus problématique à mes yeux. Et aussi le à la fois long court-métrage, on peut dire, d'Edouard Bamporiki, Long Coat, qui lui a circulé surtout dans les prisons, puisqu'il pose ici la question également dans ce film, voilà, d'une figure d'un père qui lui ne renie pas du tout son idéologie de l'époque et qui au contraire essaye de la perpétuer. Ensuite, parmi les films plus récents qui ont été produits, il y a Munyarambago de Isaac Chung, 2008. Et je dirais que ce film est assez important puisqu'il va donner naissance à un des pôles où se fait aujourd'hui du cinéma au Rwanda, qui est le Almond Tree Film, le centre, et donc auquel participe aussi Edouard Bamporiki au départ. Alors j'y reviendrai un peu après. Et puis ensuite, il y a, je dirais, deux films qui sont les plus diamétralement opposés, celui de Philippe Van Leeuw, qui est aussi présent aujourd'hui dans la salle, et Kinyarwanda, de Alec Brown. Alors autant dans le film Un jour où Dieu est parti en voyage, le travail, disons, sur l'absence de dialogue et la tentative de montrer par l'image et le jeu de l'acteur qu'est-ce que ça pourrait être, mais on reste dans le domaine de la fiction et de l'imagination, de traverser la violence d'un génocide. Et donc ce film-là s'oppose alors au film Kinyarwanda, qui est problématique. Si d'autres personnes l'ont vu, on peut en parler par la suite, qui lui propose une série de discours politiques dans la bouche d'acteurs. Et d'un côté, c'est très dommage, parce que le scénario, par contre, est très intéressant de ce film, dans la mesure où il part de fragments d'acteurs qui, durant la période du génocide, ne savent pas qu'ils sont connectés ou qu'ils seront connectés par la suite de l'histoire. Et donc, le scénario arrive à tisser des liens au fil et à mesure où on avance, où des acteurs se rendent compte que voilà, telle ou telle personne qu'ils ont vue revient par la suite dans le processus de la réconciliation. Et donc tout le tissu social tel qu'il semble complètement défait durant le génocide, et le film tente dans une certaine mesure de reconstituer ce tissu social. Malheureusement, à mes yeux, ensuite il y a toute une partie, disons, je dirais, peu subtile par rapport à l'idéologie de la réconciliation et de ses conditions de possibilité. Alors ensuite, je dirais le genre qui est le plus distinct et sur lequel je vais me concentrer dans la deuxième partie de cette communication, c'est ce qui relève de l'autodocumentaire, c'est-à-dire des rescapés rwandais qui ont cette fois-ci adopté la caméra, comme certains auraient pu adopter la plume ou l'ordinateur, et surtout la table de montage dans le cas de ces films-là. Il y en a quatre ici que je cite, celui de Daddy De Maximo, By the Shortcut, où il fait une fresque où il part de 73, puisque sa mère avait été jetée dans les rivières lors des massacres de 73 et avait pu survivre, et essaye de faire l'histoire des rivières du Rwanda, comment est-ce qu'elles ont été utilisées durant le génocide, puisque ces rivières-là aussi renvoient au mythe amitique, puisqu'il s'agissait de renvoyer les Tutsis par le raccourci à leurs origines, puisqu'ils étaient peints et encadrés comme des envahisseurs historiques, et donc pas comme les vrais Rwandais et les natifs. Et donc ce film à la fois, disons, opère une déconstruction du mythe amitique, et en même temps, il s'oppose aussi à l'oblitération qu'opère la rivière, puisque la plupart des corps qui ont été jetés dans les rivières n'ont pas été retrouvés. Et donc, il suit les rivières jusqu'en Ouganda, dans le lac Tanganyika. Et là aussi, il trouve des mémoriaux qui ont été ensuite érigés. Et donc, il construit une visibilité mémoriale par rapport à toute une série de membres de sa famille ou des proches ou d'autres gens qu'il rencontre, qui ont été massacré de cette façon-là. Donc pour lui, c'est une, je dirais, un autodocumentaire familial, indirect, puisqu'il en est quand même le narrateur. Alors ensuite, je vais surtout, dans la deuxième partie, revenir sur Rwanda, Beyond the Deadly Pit, ou Rwanda, par-delà la force mortelle de Gilbert Dahayo. Dans les courts-métrages récents réalisés par des jeunes cinéastes rwandais, donc une grande partie font partie de Almond Tree Film Rwanda, qui avait été donc créé autour du film Munyaramango de Isaac Chung. Et ces jeunes réalisateurs rwandais donc vont surtout produire des courts-métrages. Et ce qui est intéressant ici par rapport à ces courts-métrages, je dirais que c'est un déplacement de l'interrogation. Dans la mesure où ces films sont faits par des jeunes, la plupart des personnages principaux ici sont soit des enfants de survivants, soit des enfants de génocidaires. Et donc va se poser la question de comment est-ce que la génération qui est née après le génocide, puisque maintenant plus de 50% de la population au Rwanda est née après le génocide, donc comment cette génération-là va, elle, répondre du génocide, comment est-ce qu'ils vont reproduire ou non l'héritage des parents, comment est-ce qu'ils vont se positionner vis-à-vis de cet héritage. Alors par exemple, dans le film À mots couverts, le documentaire À mots couverts, de Violaine Baraduc, je dirais que tout le film, petit à petit, se focalise en grande partie aussi sur cet enjeu-là de la réponse ici du fils à la mère qui avait participé au génocide. Donc aussi, la plupart de ces scénarios ne finissent pas nécessairement sur un happy end, mais je dirais plutôt sur trois points de suspension, dans la mesure où ils invitent ensuite, au fond, les spectateurs à répondre à la question. Même, je dirais que l'invite est clairement en faveur d'une réconciliation et d'une forme de pardon et de ne pas reproduire l'idéologie dont leurs parents ont été les acteurs, en tout cas dans le cas des génocidaires. Alors, donc ici, ce sont les deux films, les longs métrages les plus récents de Joël. 4 minutes. Je vais passer directement ici à Beyond the Deadly Pit. Alors, Gilbert va vous montrer un extrait dans un petit moment, donc je ne vais pas le faire maintenant. Simplement, ce que j'aimerais dire ici, c'est que le petit collage que j'ai fait dans ce slide n'est pas fortuit, c'est-à-dire j'ai placé Gilbert au milieu. Et ensuite, parce que son documentaire se caractérise par une mise en dialogue de toute une série d'autres acteurs et aussi de toute une autre série de discours et de mémorialisations sur sa propre expérience. Donc, c'est un film donc, qui est non chronologique et qui est hautement fragmenté. Bien, alors je vais lire pour être sûr d'aller plus rapidement. Rwanda, par-delà la fosse mortelle, constitue le premier documentaire du cinéaste rwandais Gilbert Dahayo. 12 ans après le génocide, Dahayo cherche à savoir comment, au mois d'avril 1994, son père, sa mère, sa plus jeune sœur et 153 autres Tutsis, après s'être cachés dans un couvent à Kigali, ont été exterminés par des miliciens Hutus. Durant l'ouverture des deux fosses, situées dans le jardin derrière le couvent, où les victimes ont été jetées et brûlées, Dahayo interroge les sœurs et les différents survivants pour éclairer les circonstances de la mort des siens. Sa caméra archive le rituel qui entoure le déterrement des corps, le lavement des ossements, par les familles des morts, les soirées de commémoration, tout comme le transfert des cercueils au mémorial de Gisozi pour y être enterré. Si cette démarche personnelle vise à offrir aux parents du réalisateur et à d'autres proches une sépulture filmique, le geste autodocumentaire ne saurait toutefois se limiter à une entreprise mémorielle qui n'engagerait que son réalisateur. Au Rwanda, comme dans le cadre de tout génocide, il est impossible de séparer mémoire personnelle et politique mémorielle. En ce sens, l'autodocumentaire de Dahayo se doit de négocier ses conditions de possibilité et mettre en place un dispositif pour se positionner vis-à-vis des différentes médiations en vigueur qui définissent la mémoire légitime du génocide. Ce travail de positionnement au sein du présent, que ce soit lors du tournage, du montage, voire de la projection, s'opère à travers la mise en dialogue d'autres sources visuelles avec les séquences relatives aux obsèques de ses parents. Parmi ces matériaux filmiques avec lesquels Dahayo compose son film, on trouve tour à tour une manifestation houleuse à Kigali contre l'ingérence de la France au Rwanda en 2006, la visite du mémorial de Nyamata par un jeune étudiant américain en 2007, les gachachas des tueurs du père de Dahayo en novembre 2007, la venue du secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, au Parlement rwandais en janvier 2008, l'enterrement du grand-père de Dahayo dans le Bugesera en mai 2008 et la présentation de Behind the Convent, une première version du film à Chicago lors de la première convention de la diaspora rwandaise aux États-Unis en juillet 2008. Ne pouvant pas commenter tous les usages de ces séquences, je me concentrerai ici sur ceux relatifs à la scène de la gachacha. Dans les séquences documentant la comparution des tueurs impliqués dans le massacre de ses parents au couvent, Dahayo passe tout d'abord de l'autre côté de la caméra, abandonnant tout retrait pour se filmer en train d'interpeller les deux hommes suspectés d'avoir tué son père. Cette confrontation, d'une intensité inouïe, avec ses meurtriers, occupe une place centrale dans le documentaire pour plusieurs raisons. Cette scène éclaire en premier lieu la vulnérabilité des survivants, qui dépendent ici du bon vouloir des génocidaires dans la recherche du lieu où se trouvent les corps des leurs afin de pouvoir les enterrer avec dignité, une étape cruciale du deuil pour le survivant qui cherche à se projeter au-delà de la fosse mémorielle du génocide. Le fait que la possibilité de témoigner de ce qui est arrivé aux siens et de leur rendre hommage soit ainsi subordonnée au bon vouloir des génocidaires signale la complexité absolue, voire perverse, des relations de savoir et de pouvoir qui régissent la gestion mémorielle du génocide au Rwanda, qu'il s'agisse de sa genèse, tout comme de ses usages politiques. Deuxièmement, lorsqu'il se filme dialoguant avec les tueurs de sa famille dans le contexte des gachachas, Dahayo archive non seulement les rituels et la volonté de savoir qui régissent la justice transitionnelle, mais tout autant la manière dont celle-ci documente le passé des siens. Dans la mesure où les juridictions gachacha constituent une forme de justice transitionnelle, l'archive qu'elles produisent n'est donc pas sans paradoxe. Si elles visent d'une part à assurer que le passé ne soit pas oblitéré ou oublié, son avènement a aussi partie liée avec une attente inverse, à savoir que survivants et génocidaires trouvent les ressources personnelles et collectives pour tourner la page après le verdict, la page que la procédure archivante des gachacha précisément institue. En refusant de se conformer aux médiations dominantes de la politique mémorielle et de la justice transitionnelle, Rwanda, par-delà la fosse mortelle, propose ainsi une archive qui se veut en même temps une forme de déprise vis-à-vis de la fosse mémorielle dont Dahayo refuse l'oblitération et une déprise vis-à-vis des médiations légitimes du passé telles qu'elles sont mises en place dans les gachacha. Une des principales forces du film de Dahayo réside dès lors dans son habileté à œuvrer à l'avènement d'une contre-parole ou contre-archive, c'est-à-dire une archive qui vient signaler les blancs institutionnalisés des gachacha, en instillant d'autres paroles par des mises en dialogue spectrales et impertinentes, en privilégiant une esthétique qui se distancie de toute tentative de représenter le passé, en effaçant la visibilité du geste archivant. Dahayo attire ainsi l'attention sur la manière dont les représentations légitimes du passé empêchent certains survivants de prendre la parole dans la mesure où leurs témoignages ne répondent pas aux attentes de la scène symbolique et mémorielle de ceux et celles auxquels ils s'adressent. Alors, j'aimerais juste finir sur la multiplication des voix. La multiplication des voix et leur agencement polyphonique relèvent d'une stratégie testimoniale par laquelle le survivant vise à se réapproprier l'énonciation de son passé face aux espaces mémoriels institutionnalisés où il s'avère plus parlé par des tiers que parlant à des tiers. Sujet archivé plus que sujet archivant, Dahayo se doit donc d'inventer une médiation par le biais de laquelle et au sein de laquelle il peut prendre la parole selon ses propres modalités. C'est seulement en faisant reconnaître leur droit de regard à l'endroit des médiations de leur passé, avec tout ce que ce droit implique de potentiellement iconoclaste à l'endroit des formes de mémoire en vigueur, que les survivants peuvent infléchir les attentes des tiers auxquels ils s'adressent et œuvrer à l'avènement de nouvelles formes de reconnaissance. Merci.